7-9.
Nous sommes le jeudi 5 mai. Bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, en Ukraine, un espoir pour les derniers civils réfugiés dans l'aciérie Azovstal de Marioupol. La Russie promet un cessez-le-feu de 3 jours avec couloir humanitaire pour sortir de la ville. L'évacuation est censée commencer en ce moment même. Les autres titres.
Dire oui ou non merci à l'alliance avec les insoumis pour les législatives. Les socialistes au bord de l'implosion doivent trancher ce soir. Ce n'est pas joué. Des poids lourds, les éléphants du PS s'y opposent. 30% de personnel en plus pour traiter les demandes de passeport et de carte d'identité, car les délais s'allongent depuis la fin des restrictions Covid. Vous l'entendrez. À la fin de ce journal, nous reviendrons aussi sur ce match complètement fou hier soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Le Real Madrid était éliminé jusqu'à la 88e minute avant de renverser Manchester City 3-1.
Les invités de France Inter ce matin. À 7h50, le réalisateur et grand reporter Lou Bureau pour son documentaire Tranché, consacré à la guerre dans le Donbass. Documentaire qui sort en salle mercredi prochain. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, sera avec nous. Vos questions pour lui dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Les Russes tiendront-ils leur parole après avoir lancé il y a 2 jours leur char à l'assaut de l'usine Azovstal à Marioupol, en plus des frappes aériennes? Ils promettent un cessez-le-feu de 3 jours qui doit débuter ce matin, en ce moment précisément à 7h, 8h heure de Moscou, car dans cette aciérie se trouvent les derniers soldats ukrainiens qui résistent dans la ville, mais aussi des civils encore, malgré les évacuations de ces derniers jours. Valérie Krova.
Dans un message publié en ligne, l'armée russe a confirmé la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre aux civils piégés à l'intérieur du complexe industriel de sortir. Les soldats russes se tiendront à distance entre 8h et 18h pendant 3 jours pour faciliter les opérations d'évacuation. Il serait plusieurs centaines, dont plus de 30 enfants, à vivre ou plutôt à survivre dans ce dernier bastion qui échappe encore à la Russie. Les combattants du régiment Azov se cachent dans le labyrinthe de tunnels qui composent l'usine, construite à l'époque soviétique et dont Moscou possède les plans. Des soldats qui avaient déjà résisté en 2014 face à l'offensive russe et sont prêts à se battre jusqu'au dernier homme.
Les civils, les miraculés qui ont déjà pu quitter les sous-sols de cette aciérie racontent leur quotidien cloîtré, la peur que sous la puissance des missiles leur abri s'écroule et leur sortie d'Azovstal aussi. En quittant Marioupol, ils ont dû passer par ce que les Russes appellent des camps de filtration, un système hérité de l'époque soviétique et déjà mis en place par les Russes au moment de la guerre en Tchétchénie. Jean-Sébastien Soldaini.
C'est comme si les soldats russes se livraient à une sorte de tri entre ceux qu'ils considèrent être de bons ou de mauvais Ukrainiens. Ceux qui ne présentent aucun danger peuvent passer, les autres restent des nuits dans le froid, parfois dénudés, 8 heures d'attente sans s'asseoir pour en tonne avant interrogatoire.
Ils fouillent les téléphones, les photos, les appels pour voir si tu as des liens avec le bataillon Azov. Ils ne regardent pas seulement les tatouages, ils scrutent ton corps pour voir si tu as des traces qui prouvent que tu as combattu ou manié des armes, comme un boulet sur l'épaule.
Il a pu sortir sans trop d'encombre, mais le maire adjoint de Marioupol, Petro Andrushenko, alerte sur le sort d'autres Ukrainiens moins chanceux. Considérés comme suspects, ils sont conduits jusqu'à Donetsk.
Là, ce sont des gars du FSB qui interrogent. Les personnes sont mises à l'isolement. On dirait les camps de la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont torturés, parfois jusqu'à la mort. S'ils trouvent un tatouage qui ne leur plaît pas, ils le grattent jusqu'au sang avec une pierre.
Petro Andrushenko considère que ces agissements ne sont pas uniquement destinés à débarrasser le pays de ses citoyens. Il s'agit, selon lui, d'effacer tout sentiment ukrainien au sein de la population.
Cessez le feu donc prévu à Marioupol, mais les bombardements continuent ailleurs. Hier, multiplication des frappes dans l'est de l'Ukraine, mais aussi dans des régions proches de la Pologne et de la Hongrie. La Russie qui a par ailleurs tenu à faire savoir dans la soirée que 100 de ses soldats ont participé à des exercices à Kaliningrad, enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie. Simulation de tirs de missiles à capacité nucléaire et opérations dans des conditions de radiation et de contamination chimique. Une journée test pour Boris Johnson au Royaume-Uni, élection locale en Angleterre, Écosse, Pays de Galles. Ce sera l'occasion de voir dans les urnes à quel point le scandale du Partygate a fait des dégâts pour le Parti conservateur. Vote également en Irlande du Nord. Les républicains du Sinn Féin, nationalistes de gauche, qui veulent voir l'Irlande réunifiée, peuvent l'emporter. Ce serait une victoire historique. Reportage à suivre dans le journal de 8 heures. À qui le tour aux États-Unis, où la Cour suprême envisage d'annuler le droit à l'avortement, la communauté LGBT s'inquiète. Le mariage gay risque-t-il aussi une remise en cause? C'est une question très sensible aux États-Unis, où la Cour avait reconnu le mariage de couples homosexuels en 2015. Le président Joe Biden estime que désormais toutes les décisions concernant la vie privée des Américains pourraient être remises en question.
Et dans 10 minutes, le zoom d'Inter consacré à cette bataille aux États-Unis autour de l'avortement. 7h05, l'accord s'est fait, mais il reste encore un vote. Tension extrême chez les socialistes qui doivent décider ce soir de faire alliance ou non avec les insoumis pour les législatives.
Les négociateurs ont fait leur travail, mais l'accord qu'ils ont obtenu passe ce soir entre les mains du Parlement interne du parti, le Conseil national du PS, 300 membres au total. Et ce ne sera pas une formalité. Au contraire, prévient-on dans l'entourage du premier secrétaire Olivier Faure, car les éléphants se rebiffent, Anne Souhaitement.
C'est avant tout une génération loin du pouvoir qui dit non à l'accord avec les insoumis. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, est allé hier jusqu'à annoncer son départ du Parti socialiste, très sévère sur cette union, comme plusieurs de ses camarades. Indéfendable pour Jean-Marc Ayrault, reddition pour Jean-Christophe Cambadélis. François Hollande aussi y est allé de ses critiques, récusant l'accord signé quelques heures plus tôt. Mais que pèsent aujourd'hui les éléphants? Pourrait-il avoir la peau de l'accord? Possible, car au-delà des réticences de cette génération, le résultat des tractations a souvent déçu localement. Exemple à Paris. En campagne depuis plusieurs jours déjà, Lamia El-Haraj a fait les frais de l'union de la gauche et devra, si l'accord était validé, laisser sa place à l'insoumise Danielle Simonet. Une négociation perdue, dénoncée par bon nombre de cadres parisiens depuis hier, des cadres qui pourraient se venger ce soir et voter contre l'accord. Déjà fragilisé par le score d'Anne Hidalgo, Olivier Faure, dont l'objectif est de sauver le groupe parlementaire, a donc encore quelques heures pour convaincre les sceptiques et éviter une implosion du Parti Socialiste.
Ne tournez pas le dos au peuple de gauche qui nous attend, demande au Conseil le négociateur en chef socialiste Pierre Jouvet. Le vote débutera ce soir à 19h, visioconférence et présentiel au siège d'Ivry-sur-Seine. Elle promet qu'elle ne remettra plus jamais les pieds dans un cortège. La femme de 38 ans, suspectée d'avoir agressé un pompier lors de la manifestation du 1er mai à Paris, a expliqué en être sûre à 100% « Je travaille, j'ai un CDI, j'aime mes enfants ». Elle n'a finalement pas été jugée hier en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris. Affaire renvoyée au 1er juin, le temps de préparer sa défense. Elle reste placée en attendant sous contrôle judiciaire. Récit d'audience dans le journal de 7h30. Quand une compagnie aérienne low cost refuse d'embarquer un couple de personnes aveugles, cela s'est passé en avril. Transavia, filiale d'Air France, a retoqué la réservation de deux passagers qui voulaient voyager ensemble en famille au Portugal avec leur petite fille de 4 ans. Une histoire que nous raconte William Delesseux.
Fernando Pinto da Silva réserve en ligne 3 allers-retours pour Porto, en précisant son handicap, celui de sa compagne et l'âge de sa fille, valide, elle a 4 ans, jusqu'ici tout va bien. Et puis 24 heures plus tard, la compagnie l'appelle.
Me disant oui, vous avez demandé de l'assistance, on voulait bien vérifier, donc vous êtes aveugle, oui, votre femme aussi, oui. Alors attendez, ne quittez pas. L'opératrice que j'avais en ligne me reprend et me dit mais... En fait, non, ça va pas être possible. Vous pouvez pas voyager avec un enfant.
La réservation de Fernando est annulée. On lui explique qu'il sera remboursé.
C'était pas ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir partir, en fait. Hein. Et accessoirement, pouvoir partir avec ma famille. Parce que oui, en 2022, on peut être un couple de parents aveugles, autonomes. C'est totalement absurde de présupposer de nous qu'on sache mieux ou moins bien s'occuper d'un enfant quand on prend un avion.
Il écrit à Transavia, la compagnie s'engage 10 jours plus tard à rétablir sa réservation. Son annulation, c'est une erreur individuelle du service client. Lui s'est également mobilisé, l'avocat de Fernando Karim Felici.
On n'a pas encore en France la culture du libre accès au transport pour les personnes en situation de handicap. C'est pas encore acquis.
Saisie de l'affaire, la Direction générale de l'aviation civile explique qu'elle sera attentive aux mesures qui seront prises prise par la filiale d'Air France et rappelle que rendre accessibles tous les vols est une obligation légale.
William Delesseux. Si sur Terre tous les habitants vivaient comme les Français, alors la planète aurait déjà consommé en ce 5 mai toutes les ressources qu'elle peut fournir sur une année. C'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Plus on avance dans le temps et plus il survient tôt dans le calendrier. Mais selon le WWF, si dans son nouveau quinquennat, Emmanuel Macron met bien en place une planification écologique avec des mesures ambitieuses, financement de la transition, pesticides divisés par deux, 25% de terres en bio ou encore baisse de 20% de la consommation de protéines animales, alors ce moment du dépassement pourrait intervenir 25 jours plus tard en 2027.
Un plan d'urgence pour les passeports et pour les cartes d'identité.
Oui, pour réduire les délais, accélérer les procédures, le gouvernement lance le dispositif. 160 agents ont été embauchés dans les préfectures, 400 bornes biométriques pour recueillir les demandes vont être déployées aussi dans les communes. C'est la levée des restrictions liées au Covid qui est à l'origine de l'embouteillage. Reportage à Muret, au sud de Toulouse, d'Hugo Charpentier.
Dans les bureaux du service des états civils, les rendez-vous s'enchaînent. Pas de temps mort. C'est au tour de Lydia, 17 ans, venue pour...
Faire un passeport pour partir en vacances cet été, en Écosse.
Tu as pris rendez-vous il y a combien de temps ?
Il y a 2 mois à peu près.
L'attente est longue et un peu stressante.
Je pars en août normalement, donc d'ici là, je l'aurai, j'espère.
Les délais atteignent aujourd'hui des records, explique Patricia Carige, la responsable du service.
Après le Covid, les gens ont voulu revoyager à nouveau, donc ils sont précipités sur les rendez-vous. Donc on est actuellement à 3 mois et demi de délai. C'est la première fois qu'on a des délais aussi importants.
Pour accélérer les procédures, le gouvernement va déployer 400 dispositifs de recueil supplémentaires, ces fameuses bornes biométriques qui permettent d'envoyer tous les documents en préfecture.
Ça contribuera à diminuer les délais d'attente.
Mais problème, derrière chaque machine, il faut la présence d'un agent. Et à Muret, comme dans beaucoup de communes, les moyens humains sont limités.
Nous, à Muret, on a 3 bornes. Aujourd'hui, nous n'avons que 3 personnes. Si je mets une personne derrière chaque borne, il n'y a plus personne pour prendre un acte de naissance, de décès, enfin pour faire tout le reste. C'est-à-dire qu'à côté de ces missions-là, il y a aussi d'autres missions que l'État nous bascule depuis plusieurs années. Ce qui fait qu'au niveau charge de travail sur le service, il est très important.
Une charge de travail très élevée et qui pourrait le rester au moins jusqu'à la rentrée prochaine.
Un reportage d'Hugo Charpentier. En football, le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions après un match dingue hier contre Manchester City, remontée extraordinaire des Espagnols. À la toute fin du match, victoire 3-1, Winnie Claret.
C'est ce qu'on appelle renverser la table. Les Madrilènes menés 1-0 étaient éliminés jusqu'à la 90e minute à Santiago Bernabéu, jusqu'à ce doublé de l'attaquant Rodrigo qui a permis au Real d'arracher la prolongation sur le fil. Le gardien de Madrid, Thibaut Courtois.
C'était jusqu'à le dernier moment, c'était minute 90 et minute 92, donc c'est ça qui est incroyable. Et là tu vois qu'ils ont peur et que je ne peux pas l'expliquer mieux que ça.
Prolongation inespérée et ce pénalty transformé par Karim Benzema, encore lui qui propulse Madrid en finale de la Ligue des Champions. L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, y est aussi pour beaucoup, selon le consultant foot de Radio France, Jérôme Alonso.
Quelqu'un qui sait gagner, qui sait faire déjouer les autres, qui sait aller chercher au bout de son groupe toutes les ressources humaines et émotionnelles qui peut faire en sorte qu'il y ait des exploits comme celui-là. Donc il y a Benzema, il y a Ancelotti, il y a un immense gardien, Thibaut Courtois, qui fait pour moi sa meilleure saison en carrière. On se demande jusqu'où peut aller ce Real. Ben, maintenant, on se dit peut-être bien jusqu'au bout, quoi.
Les Madrilènes qui sont à un match de soulever leur 14e coupe aux grandes oreilles. Pour cela, il faudra battre Liverpool, les Reds, que le Real avait battu justement lors de sa dernière finale il y a 4 ans, 3-1. Karim Benzema avait ouvert le score.
Et la finale, ce sera le 28 mai au Stade de France. Ce soir, en Ligue Europa, cette fois, l'Olympique de Marseille accueille le Feyenoord de Rotterdam à 21h. Demi-finale retour, l'OM peut se qualifier pour la 6e finale européenne de son histoire.
Marseille qui s'était incliné 3-2 au match aller aux Pays-Bas. Merci à vous, Julie Pietri. Le Zoom dans 3 minutes, le combat de l'avortement aux États-Unis.